France Culture.
Ce matin, on parle de Winnicott.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
1971, en ce début d'année, Winnicott disparaît à l'âge de 74 ans. Il laisse une œuvre de pédiatre et de psychanalyste considérable, des dizaines d'articles et des dizaines de livres, plus un, son dernier livre, L'ultime, jeu et réalité. Il y revient sur sa conception du jeu qu'il a pu observer durant ses années de pratique avec des enfants. Mais il revient aussi sur celle de réalité. Dans quelle réalité vivons-nous? Comment faire le lien entre notre intimité et le monde extérieur? Et si le jeu, loin de se réduire à des jeux de cartes ou des monopolies, était précisément cet espace intermédiaire, celui où l'on peut vraiment être soi? Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de notre série, Donald Winnicott, le psy suffisamment bon.
Moi je reste là. Voilà, tu t'assieds, là.
Qui va jouer à la machine?
Toi, tu restes là. T'as quel âge?
4 ans.
Et toi?
4 ans et demi.
C'est bien. Allez, je choisis. Qui va aller au coiffeur?
Moi.
Alors,
moi.
Non, Frédéric. Et après, c'est toi et toi. Après, on reste avec moi toujours. Que moi, je suis un coiffeur et je suis un papa. À vous, à toi et à toi.
Qui va jouer à la maman?
Tenez, là, il y a des papas. Vous voulez jouer à la maman?
Non, non, tu vas
au lit. Vous voulez jouer à la maman?
Tu vas au lit.
Bonjour Anne Boissière.
Bonjour Géraldine, moi c'est Savoie.
Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université de Lille en philosophie de l'art et en esthétique, membre du Centre d'études des arts contemporains. Vos ouvrages « L'art et le vivant du jeu » est paru aux presses universitaires de Liège et « Le mouvement à l'œuvre entre jeu et art » est paru aux éditions Mimesis. Ces deux ouvrages portent sur Winnicott et notamment sur sa théorie du jeu. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le jeu chez Winnicott? Est-ce que c'est ce qu'on a entendu dans cet extrait du film magnifique de Claire Simon, Récréation des jeux d'enfants?
Alors, il y a en effet chez Winnicott toute une partie qui porte sur les jeux d'enfants. Et d'abord parce qu'il était, comme on le sait, psychiatre et pédopsychiatre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Winnicott s'adresse presque davantage encore aux adultes et que le jeu, pour lui, est une expérience, disons, universelle. Donc d'un côté, Winnicott s'appuie sur son expérience de thérapeute, de clinicien, et il nous ouvre un monde sur le jeu à travers cette expérience. Mais de l'autre, voilà, il nous dit des choses sur le jeu qui relèvent de la philosophie. Et de ce point de vue-là, on peut lire Winnicott à la fois en psychanalyste, en thérapeute, mais aussi en philosophe, ce qui est mon cas.
Et est-ce qu'on peut le lire aussi comme quelqu'un qui s'intéresse, voilà, qui est intéressé par la psychanalyse, qui effectivement est intéressé aussi par dimension philosophique, mais aussi, en lecteur ordinaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend de soi quand on lit une théorie du jeu chez Winnicott?
Alors, chez Winnicott, ce qu'on apprend déjà et qui me semble décisif, c'est que le jeu, c'est une expérience fondamentale. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à mettre le jeu du côté du divertissement, au fond d'une activité qui serait quasi superflue. Et Winnicott renverse complètement ce point de vue et il nous apprend que finalement, sans jeu, on ne peut pas vivre au sens fort du terme. Et ça, c'est finalement une approche extraordinaire qui, à certains égards, rejoint au plan philosophique ce que Schiller nous disait à son époque, savoir que l'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il joue. Mm. Et inversement, on ne peut pas, si on veut être vraiment homme, enfin être humain, j'entends bien sûr, alors il faut jouer et apprendre à jouer.
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire jouer?
Ah, voilà, ça c'est une grande question.
Voilà. En fait. Parce que pour moi, jouer, c'est jouer aux cartes. J'ai des souvenirs effectivement d'enfance, de jouer, comme on l'a entendu, à la maman, à la prison, aux policiers, mais on joue à quelque chose. Qu'est-ce que c'est jouer ?
Oui, alors on l'a entendu d'ailleurs dans le court extrait là, du film de
Claire Simon.
De Claire Simon, voilà, on demandait les enfants qui jouaient à être papa, à être maman, donc ça c'est une façon de jouer. Il y a aussi le jeu de Monopoly, il y a le jeu de football, enfin il y a diverses sortes de jeux bien sûr, les jeux vidéo aussi. Alors tous ces jeux-là constituent en effet le grand territoire du jeu. En même temps, on apprend à distinguer dans ce grand territoire des domaines et on propose de distinguer, disons, deux grandes acceptions du jeu pour essayer de rejoindre ce que Winnicott essaie de nous dire. D'un côté, alors on va utiliser les termes anglais qui nous permettent d'entendre davantage cette distinction. D'un côté, le game, hein, c'est-à-dire un jeu qui se définit avant tout par des règles. Mmh. Et puis de l'autre, on va dire l'expérience du jeu qu'on désignerait en anglais plutôt du côté du play. Hein, et Winnicott dira même du playing, hein, c'est-à-dire qu'il va ajouter la terminaison en ing, hein, qui correspond pour nous en français au participe présent, en jouant, pour nous dire à quel point ce qui compte pour lui, c'est moins les règles, c'est moins le dispositif qu'on peut énoncer de manière discursive, hein, que l'expérience qui, à certains égards, bien sûr, est conditionné par les règles, mais qui en réalité lui échappe toujours. Et Winnicott est très intéressant parce que je pense qu'il est un des seuls, j'oserais même dire le seul, à aller du côté de cette expérience et de nous donner une pensée radicale sur cette expérience. Voilà. À certains égards, j'exagère peut-être un peu, mais à peine, on peut dire que Winnicott nous propose une théorie du jeu finalement affranchi des règles. Quand on lit Winnicott, on ne trouve quasiment rien sur les règles. Et ça, c'est quand même passionnant. Et du coup, voilà, je crois que Winnicott nous propose vraiment une théorie, d'ailleurs, moins du jeu que du jouer. Hein, dans jeu et réalité, il y a deux textes vraiment qui portent sur le jeu en tant que tel. Et la traduction, c'est bien jouer, le verbe jouer, ER, pas le jouer, ET, mais jouer, ER. Et ça me semble très, très important, voilà, de comprendre que la perspective de Winnicott sur le jeu, c'est une perspective expérientielle. Et d'ailleurs, en anglais, on va l'entendre experiencing, hein, c'est l'expérience au sens où on la vit, où
en processus,
il y a du vécu, voilà, il y a quelque
cours.
Chose. Et Winnicott est vraiment un auteur qu'il faut lire dans cette dynamique de l'expérience, sinon on ne comprend rien.
Voilà, on ne va pas forcément lire uniquement pour avoir par exemple des conseils ou des réflexions, des éclairages sur le jeu chez l'enfant, par exemple quand on est parent, on peut aussi le lire pour soi, en se disant qu'est-ce qui reste dans ma vie d'adulte même, sur le jeu, sur le fait de jouer. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Anne Boissière, en français, on est un petit peu trompé par le terme de jouer, parce qu'on n'a qu'un seul terme pour dire jouer au sens de game et jouer au sens de playing. Jouer pour nous, quand on est adulte, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, jouer à quelque chose. Mais par exemple, au quotidien, ça pourrait être quoi, jouer dans ce sens d'expérience, dans cette idée d'une expérience en cours et de quelque chose de vivant et vécu?
Alors, ça rejoint une notion que Winnicott va développer également dans Jeu et réalité. Je pense qu'on peut l'introduire tout de suite parce qu'elle est très très importante pour comprendre justement ce que Winnicott nous dit sur le jeu par rapport à d'autres auteurs ou même d'autres philosophes ou d'autres psychanalystes. C'est le terme de créativité. C'est un se sentir vivant. Voilà. Il y a quelque chose évidemment de très invisible dans cette expérience. C'est-à-dire que pour Winnicott, on peut être dans le jeu, dans ce jouer, dans beaucoup d'activités. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est peut-être moins le contenu de l'activité que la disposition à travers laquelle on se donne dans cette expérience du jeu.
Et donc, par exemple, regarder les choses d'une autre manière,
voilà.
S'adresser à une personne d'une autre manière. Est-ce que là, par exemple, on pourrait se dire qu'on est en train de jouer ?
Alors, attendez, Géraldine, évidemment, moi, je suis un tout petit peu, comment dire, je dirais pas tendue, mais enfin, en tous les cas, je suis très concentrée. Donc, c'est une concentration peut-être qui me met un petit peu à côté, disons, de la dimension du playing. Mais oui, j'aimerais pouvoir être dans cette expérience parce que c'est finalement celle qui donne accès aux choses les plus, disons, importantes, comme la surprise, comme la capacité à être dans la disponibilité, dans l'accueil, dans la réceptivité, dans la capacité aussi à répondre. Winnicott va beaucoup le dire dans l'expérience thérapeutique. Ce qui compte pour lui, c'est justement de pouvoir accueillir ce que l'enfant ou même l'adulte lui donne et pouvoir justement lui donner autrement en retour. Donc il y a toute cette, vous voyez, ce va-et-vient qui n'est pas d'ailleurs de l'ordre simplement d'une répétition, comme parfois on le dit, mais qui est vraiment de l'ordre d'une créativité. Et ce qui est vraiment important du point de vue de Winnicott, c'est d'affirmer que cette dimension d'expérience, elle est vitale, mais au sens, vous voyez, d'un exister. C'est-à-dire que un exister pour être soi-même, ça c'est vraiment très très important. Donc Winnicott va privilégier à travers l'activité du jeu cette dimension, disons, très, très singulière qui permet à une personnalité, à une personne, à un soi d'exister. Voilà.
Avant d'écouter un extrait d'un texte issu de Jeux et Réalités, revenons quand même sur ce livre. C'est Jeux et Réalités en français avec un sous-titre qui est L'espace potentiel. Ce livre, il est paru en 1971, donc l'année de la mort de Winnicott. C'est le dernier livre qu'il a écrit. Les autres parutions posthumes sont des textes qui ont été écrits avant. On s'intéresse surtout, là, on l'a entendu d'ailleurs, au terme de jeu, mais il y a quand même ce terme de réalité qui est extrêmement important. Et vous l'avez dit, Anne Boissière, vous approchez Winnicott en philosophe, on peut le lire en philosophe. La réalité, c'est un énorme concept en philosophie. Qu'est-ce qui nous dit Winnicott sur la réalité? Comment le rapport au jeu permet de redéfinir cette réalité?
Alors, je vais juste me permettre d'abord une petite remarque là sur ce livre, ce grand livre de Winnicott. Et d'ailleurs, je pense, enfin, vous posiez la question de à qui s'adresse Winnicott. Je pense que tout le monde peut lire Jeux et Réalité. C'est un livre vraiment qui aborde les choses d'une manière simple. En tous les cas, on peut le lire. C'est très, très
c'est
important de le dire. C'est pas Lacan. Il y a vraiment chez Winnicott un style d'une simplicité parfois même désarmante. Ce qui ne veut pas dire que sa pensée est simple. Au contraire, elle peut être même très très complexe. Et je pense que Winnicott, c'est un philosophe qu'on médite, on y revient, mais ses textes sont d'une clarté déroutante même.
Mais oui, vous avez raison, parce qu'en le lisant, parfois je me suis dit, bon, si c'est juste pour me dire ça,
exactement.
Pourquoi le dire en fait, pourquoi? Et effectivement, on sent qu'il joue quelque chose de plus, mais on a du mal à définir quoi.
C'est une complexité, disons, fondamentale, vous voyez. C'est-à-dire que dans cette simplicité des mots, dans cette capacité chez Winnicott à clarifier sa pensée, il y a vraiment un enseignement très profond. Et ça, c'est rare. Et c'est, de ce point de vue-là, une grande pensée pour moi. C'est une grande pensée, voilà. Et donc, attention, effectivement, de ne pas, disons, caricaturer, justement, les concepts de Winnicott, qui, en fait, sont des concepts qui ont une certaine fluidité. On voit comment sa pensée s'organise au fur et à mesure de la clinique, comment elle évolue, comment aussi elle est très subtile. Donc, évitons, vous voyez, de caricaturer Winnicott. Puis, une dernière remarque, c'est que, bon, on l'a suggéré, Winnicott est un psychanalyste et penseur britannique. Donc, en fait, nous avons accès, nous, en France, à des traductions. Et évidemment, traduire, ça implique toujours faire des choix de mots qu'on pourrait éventuellement discuter ou que des spécialistes pourraient discuter. Et vous voyez, par exemple, jeu et réalité, en anglais, c'est playing and reality, mais le sous-titre, l'espace potentiel, moi, je ne le trouve pas dans la version que j'ai en anglais. Donc, c'est, je pense, un ajout des traducteurs français. C'est un choix éditorial, à mon avis. Donc, faire attention à tout ça. Et alors, reality, c'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais peut-être pas y répondre de manière, entière, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que Winnicott nous dit finalement que notre rapport à la réalité, que ce soit à notre réalité intérieure, à ce que l'on ressent de nous-mêmes, ou que ce soit notre rapport à la réalité extérieure, c'est-à-dire les objets, l'environnement, la façon dont on reçoit les choses, mais ce sont aussi les autres, les hommes et les femmes qui nous entourent, eh bien, cette relation-là, en fait, elle est habitée, elle est médiatisée par l'expérience du jeu. Et le jeu, je dirais même, ou l'expérience de jouer, précède pour Winnicott notre capacité à nous relier à la fois à notre monde intérieur et au monde extérieur. Et du coup, Winnicott, et ça, c'est ça la grande révolution winnicottienne, enfin même par rapport à Freud, c'est véritablement de nous dire et d'essayer de nous faire comprendre que cette relation qui est liée à l'expérience du jeu, elle précède notre rapport au monde et à la réalité, voyez. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure en commençant que le jeu est fondamental. Enfin, je ne voudrais pas dire qu'il est condition de possibilité de notre rapport au réel, parce que là, j'irais trop loin et puis ce ne serait pas du tout winnicottien. Mais cette expérience du jeu, elle est constitutive de notre relation. Et quand on ne peut pas jouer au sens winnicottien du jeu, ben, on est malade au sens, si vous voulez, où on est soit trop enfermé sur soi, donc on manque le contact avec la réalité extérieure, ou alors on est trop adapté à la réalité extérieure.
Et on n'a pas d'intériorité.
Voilà, et on manque d'imagination, on manque de capacité à rêver. Et Winnicott nous dit, les deux sont aussi importants. Aller vers l'extérieur et pouvoir en même temps se connecter. Et se sentir vivant, chez Winnicott, vous voyez, c'est être dans cette capacité de contact avec l'intérieur comme avec l'extérieur. Et le moment magique du jeu, c'est ce moment où ça réussit. Alors évidemment, il y a beaucoup de moments où ça ne réussit pas.
Mais qu'est-ce que ça veut dire un jeu qui réussit ? Parce qu'en fait, un jeu n'est jamais raté.
Alors ça dépend, parce que là, si on revient, alors je me permets de revenir un tout petit peu à la distinction play-game. Vous voyez, bon, la réussite du jeu dans le game, c'est qu'il y a des règles, il y a un objectif, il faut l'atteindre.
Bah déjà, il faut finir une partie. Voilà, déjà.
Déjà.
Sans que ça vire mal.
Il faut la finir, exactement. Mais enfin, bon, on peut en tous les cas dire que quelque chose se termine avec la partie ou avec le gagnant ou la gagnante, enfin voilà. Alors que la dimension, disons, d'expérience du jeu, là, cette expérience plus fondamentale qui ne passe pas, vous l'avez bien compris, hein, par, disons, le dispositif voilà, d'un Monopoly ou d'un jeu de football, ce qui ne veut pas dire que la façon dont Winnicott théorise l'expérience du jeu ne nous permet pas de comprendre différemment le jeu de Monopoly ou le jeu de football. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de faire du jeu de football. On peut y trouver beaucoup de plaisir, on peut trouver dans le terrain de jeu de football ce que Winnicott appelle un espace potentiel, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on peut aussi complètement s'ennuyer sur un terrain de football, on peut aussi faire du football de manière très, de façon très compétitive, hein. Et donc là on va perdre le piquant du jeu ou le plaisir du jeu, ou l'enjoyment, comme dit Winnicott, vous voyez, donc voilà.
Mais dans le playing, qu'est-ce qui peut rater ?
Dans le playing, tout peut rater. Vous voyez, ça, c'est ce que dit Winnicott. Il dit dans un texte, il dit que ce qui va caractériser le jeu aussi, c'est sa précarité. Il y a quelque chose... À tout moment, le jeu peut réussir et à tout moment, il peut aussi rater. C'est-à-dire qu'on peut être à côté de la plénitude de cette expérience, vous voyez.
Eh bien, on va entendre tout de suite un texte, Anne Boissière, dans lequel Winnicott parle effectivement de précarité, reprend cette distinction entre game et playing, et effectivement revenir notamment sur cette idée quand même d'expérience.
Il ne faut jamais oublier que jouer est une thérapie en soi. Faire le nécessaire pour que les enfants soient capables de jouer, c'est une psychothérapie qui a une application immédiate et universelle. Elle comporte l'établissement d'une attitude sociale positive envers le jeu. Mais il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d'effrayant, et l'on peut tenir les jeux, games, avec ce qu'ils comportent d'organiser comme une tentative de tenir à distance l'aspect effrayant du jeu, playing. Des personnes responsables doivent être disponibles quand les enfants jouent, mais cela ne signifie pas qu'il leur faut entrer dans le jeu des enfants. Quand un organisateur est amené à diriger le jeu, cela implique que l'enfant ou les enfants sont incapables de jouer au sens créatif où je l'entends ici. Ce qui m'importe avant tout, c'est de montrer que jouer, c'est une expérience. Toujours une expérience créative, une expérience qui se situe dans le continuum espace-temps, une forme fondamentale de la vie. La précarité du jeu lui vient de ce qu'il se situe toujours sur une ligne théorique entre le subjectif et l'objectivement perçu. Mon but est simplement de rappeler que le jeu des enfants contient tout en lui, bien que le psychothérapeute travaille sur le matériel, sur le contenu du jeu.
Extrait de jeu et réalité, l'espace potentiel, ça c'est la traduction française, je le précise, de Winnicott, lu par Nicolas Berger. Alors on a entendu un certain nombre d'idées que vous avez déjà évoquées, Anne Boissière, mais on peut revenir quand même sur certaines choses, notamment sur cette idée de thérapie en soi. Qu'est-ce que ça veut dire que le jeu est une thérapie en soi? Est-ce que ça veut dire que jouer, c'est une manière d'être à la vie ou c'est une manière de se soigner?
Alors, c'est vrai que cette idée du jeu comme thérapie en soi est assez étonnante. Et en même temps, elle est fondamentale du point de vue de Winnicott. Alors, j'aimerais d'abord dire une chose, c'est que Winnicott dit que le thérapeute, en tous les cas, quand il se prête à l'expérience clinique, d'abord, il doit aimer jouer. Et Winnicott, je pense, était un thérapeute qui aimait jouer. Il aimait vraiment ça. Je ne dirais pas la même chose de Freud, par exemple. Donc la relation analytique, psychanalytique, thérapeutique, elle est déjà, pour Winnicott, prise dans le jeu.
Mais je précise d'ailleurs que dans Jeu et réalité, il donne beaucoup à entendre des cas en particulier. Oui. Par exemple, le petit Edmond qui joue avec un ours. Par exemple, une petite fille et un petit garçon qui joue avec une ficelle. Donc effectivement, il dit aux parents qui accompagnent leurs enfants, parfois il reçoit les parents, il parle plutôt avec les parents et il dit aux enfants d'aller chercher la caisse de jouets qui est derrière son bureau. Et d'autres fois, il s'intéresse plutôt aux enfants en jouant directement avec eux.
Voilà. Mais alors, ce qui va caractériser le geste de Winnicott, justement, dans sa clinique, c'est de s'engager lui-même dans le jeu. Et d'une façon, je crois, c'est en tous les cas comme ça que je comprends cette idée du jeu comme une thérapie en soi, d'une façon qui, à certains égards, je dirais, le conduit à s'en remettre au jeu lui-même. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a l'idée qu'on trouvera d'ailleurs, ou qu'on trouvait chez d'autres auteurs, je pense notamment à l'historien néerlandais Huizinga, qui a écrit Homo Ludens, et puis on retrouve ça chez d'autres, Buitendijk ou Gadamer, à savoir que le jeu, finalement, a sa propre logique et elle dépasse les individus qui jouent. Et je pense que chez Winnicott, enfin, il ne le dit pas de cette façon-là, bien sûr, là, c'est moi qui parle, mais il y a vraiment cette idée qu'il faut faire confiance au jeu et que si on laisse l'expérience se dérouler, alors ça, en revanche, Winnicott l'affirme de manière très claire, il dit c'est une expérience totale, il dit d'ailleurs dans un autre texte, le jeu est thérapeutique si on lui laisse véritablement aller à son cours. Donc il faut vraiment que le jeu fasse son expérience, je dirais, lui-même. Mais ce qui est très important, si vous voulez, c'est que l'activité ou l'expérience, je préfère dire, du jeu dépasse les joueurs, dépasse la subjectivité, et donc on peut s'en remettre à cette activité qui est une activité en soi, différente de l'activité de connaître, différente de l'activité technique, et qui, à certains égards pour Winnicott, ne se réduit pas à l'activité de faire. Bien sûr, il va dire jouer, c'est faire, mais à condition de voir dans ce faire une expérience totale d'espace et de temps qui, en réalité, va apporter quelque chose qu'aucune autre activité, qu'aucune autre expérience peut apporter, c'est ce vivant. Un vivant qui ne se réduit pas, il faut bien le dire aussi, à simplement du biologique. C'est un vivant, qu'un ressentir vivant.
C'est se sentir vivant.
C'est se sentir vivant. Enfin, Winnicott vraiment insiste.
C'est l'expérience vécue.
Voilà, il y a la dimension vécue au sens quasi phénoménologique du terme, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas simplement dans un pulsionnel qui nous ramènerait à du biologique, même si chez Winnicott, il y a aussi cette dimension-là. Mais il y a véritablement l'idée qu'une expérience de soi dans le rapport à l'altérité, toujours dans le rapport à l'altérité, peut se mettre en place, peut s'installer, peut se déployer dans le jeu. Et alors, une dernière chose par rapport à la thérapie, on a parlé de cas cliniques. Ce que dit Winnicott, c'est que, si vous voulez, se sentir vivant, finalement, si je puis dire, ce n'est pas une norme extérieure. Vous voyez, il n'y a pas la norme de qui est malade et qui est sain. Pour Winnicott, le critère, si je puis dire, c'est justement de se sentir vivant. Et c'est un rapport à soi, si vous voulez, dont on peut faire l'expérience. Et Winnicott nous dit, si vous voulez faire cette expérience, eh ben, il faut apprendre à jouer. Donc, on va chercher nous-mêmes ce que veut dire, pour nous-mêmes, se sentir vivant. Vous voyez.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on écoute, enfin, quand on lit Winnicott, et en vous écoutant, Anne Boissière, il y a peu d'activités à travers lesquelles on se sente vivant. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on se déplace, ou quand on dort, je ne sais pas, ou quand on mange, en fait, on ne se sent pas toujours vivant. On pourrait apprendre, en fait, à être plus réflexif, à être plus à se demander ce que ça nous fait. Mais finalement, il y a quoi ? Il y a l'amour aussi ? qui est une expérience dans laquelle on se sent vivant.
Tout dépend, évidemment.
Mais c'est plus des... Effectivement, il y a cette idée, comme vous l'avez dit, d'apprendre. Il faut être conscient de ce que l'on est en train de vivre. Et seule une expérience comme le fait de jouer, où en fait on doit se mettre dans une certaine disposition, nous permet d'avoir cet éveil sur nous. Sinon, on peut très vite faire les choses automatiquement. Ou alors, je parlais de l'amour, mais il y a quelque chose presque qui nous tombe dessus souvent.
Oui. Alors, là, on a évoqué au début de l'émission, j'ai évoqué la créativité. Je pense que dans les textes que Winnicott consacre à la créativité, il répond un petit peu à cette question. Il dira, par exemple, voyez, regarder un arbre, c'est une expérience qui peut être créative et dans laquelle ou à partir de laquelle on peut se sentir vivant. Vous voyez, donc ça rejoint la question ce que Winnicott appelle la créativité, et il va dire à l'inverse, peut-être qu'on y reviendra. Vous voyez, on peut être créateur, on peut créer des grandes œuvres et ne pas trouver à travers cette production, qui est pourtant très gratifiante et puis qui peut apporter une certaine reconnaissance, on peut manquer ou on peut ne pas trouver ce rapport à soi de enjoyment, de jouer, qui caractérise ce que lui découvre comme la créativité. Alors vous voyez, ce qui est vraiment passionnant chez Winnicott, c'est qu'en fait, il met des mots sur une expérience du rapport à soi, du rapport aux autres et du rapport au réel, effectivement, qu'on peut aussi manquer dans notre vie. Et en même temps, c'est tout le travail qu'il fait et avec les enfants et avec ses patients qui l'amène à comprendre que cette dimension-là, si elle fait défaut, ça peut conduire à des vies qui sont très... on va dire très dépressive ou très triste. Et là, j'utilise le terme triste en un sens vraiment large. Donc, vous voyez, ce qui est important de dire, c'est que la thérapie, c'est pour Winnicott, c'est ce qu'il appelle l'individu sain, mais pas au sens où certains le seraient et d'autres pas, mais au sens véritablement où c'est ce qu'il appelle cette santé, c'est un rapport à soi. Il nous invite à trouver et à rencontrer dans notre expérience, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres.
Pour assigner une place au jeu, j'ai fait l'hypothèse d'un espace potentiel entre le bébé et la mère. Cet espace varie beaucoup selon les expériences de vie du bébé en relation avec la mère ou la figure maternelle. J'oppose cet espace potentiel, petit a, au monde du dedans, relié à l'association psychosomatique, et petit b, à la réalité existante, ou du dehors, qui a ses propres dimensions et peut être étudiée objectivement, et qui, bien qu'elle puisse paraître variée selon l'état de l'individu qui l'observe, reste en fait constante. Je voudrais détourner l'attention de la séquence psychanalyse, psychothérapie, matériel de jeu et jeu, pour la présenter dans le sens inverse. En d'autres termes, c'est le jeu qui est universel et qui correspond à la santé. L'activité de jeu facilite la croissance et par là même la santé. Jouer conduit à établir des relations de groupe. Le jeu peut être une forme de communication en psychothérapie. Et en dernier lieu, je dirais que la psychanalyse s'est développée comme une forme très spécialisée du jeu, mise au service de la communication avec soi-même et avec les autres. Ce qui est naturel, c'est de jouer. Et le phénomène très sophistiqué du XXe siècle, c'est la psychanalyse. Il serait bon de rappeler constamment à l'analyste non seulement ce qu'il doit à Freud, mais aussi ce que nous devons à cette chose naturelle et universelle, le jeu.
Avec philosophie, France Culture, Géraldine Mosna, Savoie.
Extrait de Jeu et réalité de Winnicott. Nous sommes ici Anne Boissière dans la sous-partie Le jeu dans le temps et dans l'espace. Ce texte est précisément en continuité avec le texte qu'on a entendu avant et avec vos propos, puisqu'on y entend effectivement que le jeu est premier. Le jeu est naturel et universel, nous dit Winnicott. On pourra d'ailleurs revenir sur ce paradoxe qui est qu'on doit apprendre à jouer alors que le jeu est censé être naturel. Et il va même ici jusqu'à inverser la donne. Winnicott, il nous dit, ça n'est pas la psychanalyse qui est première, c'est d'abord jouer. On joue et après on parle de psychanalyse. Anne Boissière.
Oui, ça revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit en parlant de jouer comme une thérapie en soi. C'est-à-dire que si on arrive à contacter cette expérience du jouet, mm-hmm. alors quelque chose se transforme. Et Winnicott propose non pas de s'appuyer sur le jeu pour la psychanalyse ou pour faire des cures psychanalytiques, comme c'était le cas, je pourrais dire, avant Winnicott, parce que finalement, le jeu a déjà été utilisé, par exemple, par Mélanie Klein, ou voilà, c'est pas... Winnicott n'invente pas le jeu en psychanalyse, mmh. mais en revanche, dans cette phrase-là que vous dites, il est vrai que, il nous dit que si on est dans cette expérience du jeu, eh bien, on pourrait quasiment se passer, disons, de cure psychanalytique.
Alors, ça, vous pourrez faire que jouer avec son psy.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, en effet, il y a quelque chose dans le jeu dont l'activité ou la pratique psychanalytique peut s'inspirer ou à partir de, en tous les cas, de quoi la cure psychanalytique peut se déployer. Et ça, je pense que c'est quand même c'est une grande idée de Winnicott et qui est, enfin, comme on le disait tout à l'heure, aussi très lié à sa propre pratique. Il y a la théorie du jeu chez Winnicott, elle s'appuie aussi sur sa pratique.
Mais par exemple, en cure psychanalytique, il faut aussi dissocier préciser que le jeu, parce que ça peut prêter à confusion, on peut avoir l'impression en fait que dans la cure, enfin, on peut être soi-même. Or, jouer parfois laisse entendre qu'on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Or, ça rentre en contradiction avec l'idée de pouvoir se sentir libre. Winnicott insiste sur le terme de spontanéité. Il y a quelque chose qui s'impose presque. Il y a certaines conditions, on va y revenir. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait quand même des présences qui soient rassurantes. On peut peut-être évoquer, par exemple, Anne Boissière, le jeu de la spatule. C'est-à-dire que Winnicott laissait une spatule posée sur son bureau et il avait constaté qu'il voulait voir en fait comment les enfants allaient interagir avec cette spatule. Et il constatait qu'il y avait trois étapes. La première, c'est que l'enfant était un petit peu réservé, se demandait s'il pouvait prendre la spatule. Le deuxième moment, il s'en saisissait et il jouait avec la spatule. Et le troisième moment, il jetait la spatule et sa mère la reprenait et il la rejetait et s'instaurait donc une troisième étape dans ce jeu. Donc là, il y a quelque chose de complètement naturel, mais on pourrait dire aussi que parfois, quand on est allongé sur un divan, on se dit qu'on est en train d'être dans le rôle de celui qui est psychanalysé. Vous voyez qu'on peut être dans une sorte de jeu de rôle.
Oui, alors bon, là, c'est vrai que ce sont des grandes questions, donc on peut peut-être pas tout aborder, mais je crois que d'une part, il y a l'idée qu'en effet, on peut, orienter l'expérience de la psychanalyse en s'appuyant sur cette dimension du jeu, c'est-à-dire finalement, alors peut-être on pourrait dire deux mots ici de l'espace potentiel. Oui. Je crois que ce serait intéressant parce que ça nous permettrait peut-être de faire le lien entre d'un côté la thérapie avec des enfants dont Winnicott parle principalement, mais pas que, hein, dans jeu et réalité. Et puis de l'autre, bon, cette dimension disons plus freudienne de la cure, hein, qui passe quand même principalement par le langage. C'est vrai que l'espace potentiel, c'est pour Winnicott une ère intermédiaire d'expérience qui permet justement à l'individu de trouver donc un rapport renouvelé et vivant à soi à partir justement aussi des objets extérieurs. Et ça, il en parle dès 1951 dans un texte qui ouvre jeu et réalité et qui porte sur... alors là aussi, c'est une expression bien connue de Winnicott, hein, les objets transitionnels. Et je pense qu'on peut peut-être dire deux mots de cette question-là, parce que c'est une question qui nous permet ensuite de comprendre des choses importantes sur justement cet espace de jeu, cet espace potentiel qui est un des concepts phares de Winnicott avec la créativité et avec justement le jeu. Alors cet objet transitionnel, c'est un objet dont il faut comprendre le statut paradoxal et j'insiste ici sur le terme de paradoxe, hein, vous l'avez aussi introduit tout à l'heure, la Géraldine. C'est-à-dire que Winnicott dit souvent que sa pensée est paradoxale et que l'expérience dont il essaie de parler est paradoxale, mais qu'il ne faut pas justement éliminer ce paradoxe, il faut au contraire le reconnaître. Et l'objet transitionnel, c'est un objet qui est paradoxal. C'est un objet qui, du point de vue de l'enfant et un objet dont Winnicott dira qu'il est trouvé, créé. C'est-à-dire que c'est bien sûr un objet qui est là, puisque la plupart du temps, hein, un objet, ça peut être la spatule, comme vous le dites, mais ça peut être un doudou. Hein. Mm-hmm. C'est un objet donc qui est bien là, et pour les adultes, en tous les cas, extérieurs, enfin, c'est un objet comme un autre. Enfin, mais pour l'enfant, c'est un objet qui a un statut particulier. Et Winnicott dira, c'est un objet subjectif. C'est-à-dire que l'enfant, si vous voulez, se relie à cet objet comme à son propre corps ou comme au corps de sa mère. Et en fait, Winnicott nous dit que l'objet transitionnel est très important dans la mesure où c'est le moment où l'enfant commence à se séparer de sa mère, puisque pour Winnicott, ce qui est premier, c'est la fusion avec la mère. Et la relation de jeu, et notamment à travers cet objet que Winnicott appelle transitionnel, eh bien, c'est cet objet qui va permettre, en quelque sorte, la défusion, mais tout en gardant la fusion. Mmh. Donc ça va être, un lien de, à la fois d'union et de séparation, qui fait que cet objet, si vous voulez, a un caractère très très particulier et qui effectivement a quelque chose d'extrêmement, je dirais, vital pour l'enfant, parce que c'est cet objet qui à la fois le relie encore à lui, tout en le reliant à sa mère, tout en étant, vous voyez, dans cette
fusion-défusion,
union-séparation. Mmh. Et vous voyez, vous évoquiez tout à l'heure la ficelle. Eh bien, oui, Winnicott en parle en ces termes. C'est-à-dire quand il va essayer de penser le statut de cette ficelle ou de cet enfant dont il parle et qui joue avec la ficelle, c'est là aussi pour dire que finalement, cette ficelle, elle a le statut d'un objet transitionnel, c'est-à-dire qu'elle vient symboliser à la fois l'union et la séparation avec la mère. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, cet objet, si on le considère du point de vue de l'adulte, ça n'est qu'un objet, mais si on le considère du point de vue de l'enfant, c'est un objet subjectif, c'est encore une partie, si vous voulez, du corps. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, mettre un doudou dans la machine, c'est quelque chose d'horrible pour un enfant. Ou perdre son doudou, c'est quelque chose d'horrible, parce que l'enfant est menacé. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et Winnicott comprend l'importance, si vous voulez, de cette dimension d'expérience. Et c'est ça qui est intéressant chez Winnicott, c'est moins le fait de l'objet en lui-même que le fait que cet objet porte une expérience qui est fondatrice, comme on le disait tout à l'heure, du lien à la fois à soi et au monde extérieur. C'est pour ça que Winnicott dit que ce moment d'expérience, il faut véritablement, le réussir. Et l'environnement, donc la mère, mais ça peut être aussi d'autres adultes autour de l'enfant, le réussissent d'autant mieux qu'il donne à l'enfant un sentiment de sécurité. Et du coup, je me permets juste de terminer ça, mais ce qui va être très très important dans cet espace potentiel, c'est la confiance que cet espace, l'expérience de cet espace, va donner à l'enfant dans son expérience justement de l'objet et aussi du rapport à lui-même. Vous voyez, donc c'est vraiment très très important.
Comment tu t'appelles ?
Apollonia.
Et quel âge tu as ?
5 ans.
Et papa, c'est qui ?
C'est toi.
Est-ce que t'as un doudou ?
Deux même.
Devant toi, est-ce que t'en as encore d'autres à la maison ?
Oui, plein. Doudou lapin. Petit doudou lapin, doudou licorne, encore un petit doudou lapin, doudou singe et doudou feu de crayon.
C'est celui que tu as devant toi là, c'est une sorte de crayon avec une licorne au bout.
Oui.
Ça c'est un doudou ou c'est un crayon ?
Doudou crayon, on va dire.
Est-ce que tu l'utilises comme un doudou ?
Oh oui.
Tu t'en sers pour quoi en général de ton doudou ?
Pour dormir. Sauf que ce doudou crayon licorne, je peux pas dormir avec lui. Parce que on pourrait le mettre dans l'œil.
Mais t'aimerais bien des fois emmener ton doudou à l'école ?
Oui. Parce que je l'aime trop et je veux le garder toute la vie.
Tu utilises quel doudou pour dormir ?
Oh, celui-là. Le singe doudou. Quand je dors sans doudou, ça me fait penser des rêves de fantômes. Et quand je dors avec mes doudous, ça me fait penser des rêves qui sont pas de fantômes, des rêves qui sont agréables.
Qu'est-ce que tu leur fais, par exemple ?
Des bisous.
Quand t'es avec les parents, par exemple, est-ce que t'as plutôt plus besoin du doudou ou moins besoin du doudou ?
Moins besoin du doudou.
Ah, pourquoi ?
Parce que les parents, ça ressemble à des doudous.
Est-ce que tu pourrais prêter un de tes doudous à ton frère, par exemple, pour dormir ?
Oh, il en a pas besoin. Mais je sais pas son idée s'il aime des doudous. Hein. Il est plus petit que moi, il a pas de doudou.
Où l'on apprend que la fille de Nicolas Berger, notre réalisateur, donc Apollonia, a un rapport à ses doudous qui est exactement celui que Winnicott décrit et que vous avez décrit, Anne Boissière, à savoir, quand les parents sont là, on a moins besoin de son doudou, mais quand les parents ne sont pas là, à savoir la nuit, eh bien on a besoin d'un doudou. En plus, on a des rêves agréables.
Ah oui.
Mais quel rapport entre cet objet transitionnel qui est le doudou et cet espace potentiel, parce que là, c'est un espace potentiel, on l'a entendu dans le texte d'avant, entre le bébé et la mère. On se dit que l'objet transitionnel occupe aussi cette fonction. Mais quelle différence entre l'espace et l'objet, entre le doudou d'Apollonia et l'espace potentiel avec sa mère ou avec son père?
Écoutez, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'être claire. Je pense qu'on peut aborder les choses peut-être là ici d'un point de vue plus théorique, hein, en disant que Winnicott va évoluer dans sa réflexion, et j'imagine aussi en lien avec la clinique, c'est-à-dire que petit à petit, il va, à partir de cet objet transitionnel, poser la question de l'espace transitionnel. À travers cette question, où est le jeu, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, où est le jeu. Et alors, Winnicott progressivement va faire émerger un concept nouveau qui est celui justement de cet espace potentiel, hein, sachant justement que dans l'espace potentiel, si vous voulez, l'objet n'existe pas encore. C'est-à-dire que pour l'enfant, il n'y a pas encore d'objet identifiable comme tel. Donc Winnicott va, en quelque sorte, affirmer que ce qui est important, c'est cette, encore une fois, cette dynamique expérientielle qui précède en quelque sorte l'identité de l'objet, parce qu'une fois que l'objet il est identifié, vous voyez, il y a déjà séparation de l'objet et du sujet. Et Winnicott, je dirais, par rapport notamment à Freud, peut-être qu'on peut en parler ici une minute, si vous voulez, fait un pas de côté dans la mesure où, alors que Freud restait, si je puis dire, dans la division objet-sujet, dans son approche du psychisme et dans son approche de la pulsion, Winnicott comprend que si on veut intégrer cet objet transitionnel, il faut créer un concept nouveau qui soit justement ni du côté de la réalité interne, ni du côté de la réalité externe. C'est-à-dire dans cette opposition qui structurait encore, si je puis dire, la pensée de Freud. Vous voyez, l'inconscient, chez Freud, il est psychique. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir ouvrir quelque chose de nouveau en psychanalyse.
Un troisième espace,
et voilà,
un troisième lieu qu'on n'avait pas.
On ne l'avait pas. Alors maintenant, ça paraît banal, mais vous voyez, Winnicott, il l'invente. Et ce qui est très très important de comprendre, et je reviens à ce que je disais au début, c'est que pour Winnicott, ce qui est premier, c'est l'un, c'est la relation. Et ce qu'il faut penser, c'est la diffusion, c'est-à-dire la constitution de l'opposition objet-sujet. Vous voyez. Et donc, en fait, il se situe un petit peu, si je puis dire, en deçà aussi de Freud. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, Winnicott, bien sûr, ne reste freudien, mais il remanie la conceptualité freudienne. Et c'est ça que je trouve passionnant, si vous voulez, dans cette conception de l'espace potentiel. Donc, ne pas croire que l'objet est dans l'espace potentiel, vous voyez, parce que là, on ne comprendrait plus rien. Il faut au contraire comprendre que cette expérience de jeu, cet espace potentiel, alors potentiel aussi, parce que Winnicott va greffer sur cet espace ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette capacité à créer, hein, c'est en jouant qu'on est créatif. On est créatif, non pas parce qu'on manipule un objet, on est créatif parce que quelque chose de l'expérience du rapport à soi et aux autres se constitue, se déploie à travers le jeu. Donc vous voyez, si on revient au doudou, ce qui compte, bien sûr, c'est le doudou, mais c'est tout ce que la petite fille nous dit de sa capacité à exister à travers le doudou. C'est ça qui est important, vous voyez. Et c'est ça qui compte pour Winnicott.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez plusieurs fois dit, c'est non seulement cette expérience qui nous fait nous sentir vivants, mais qui nous met aussi en relation avec les autres. Mais que reste-t-il du sujet, du moi, si on est tout le temps dans cet espace à la fois de fusion et de diffusion, enfin je dis tout le temps, en tout cas dans le jeu, s'il n'y a plus de sujet, d'objet, mais un espace tiers, intermédiaire, voilà, Winnicott emploie toute une gamme de termes pour parler de cet espace potentiel, que reste-t-il du moi? Comment on est sûr d'être soi-même dans le jeu ?
Bah, c'est une bonne question. C'est-à-dire que, en fait, cet espace potentiel, on n'y vit pas 24 heures sur 24, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est possible.
Oui, des fois, on est dans le monde, et d'autres fois, on est dans sa tête.
Et ce que dit Winnicott, c'est qu'il est important de pouvoir, de temps à autre, se retrouver dans cet espace, vous voyez. Parce qu'il dit aussi, c'est un espace où on est, je vais dire les choses comme ça, on est, si je puis dire, chez soi aussi. C'est-à-dire, c'est un espace où on peut, ça c'est très important, on peut se détendre. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut donc émerger dans cet espace, qui ne pourra pas émerger autrement. Et ce qui émerge, c'est non pas ce que Winnicott appelle justement le moi, parce qu'il l'utilise assez peu en tous les cas, il n'utilise pas du tout la notion dans un sens, disons, proche de Freud. Là, il se décale par rapport à Freud, il va plutôt parler du soi. Bon, le soi, c'est, si vous voulez, ce qu'il y a de propre à la personne, d'original, voilà, dans la... Il dit, c'est ce qu'on ne peut pas faire à votre place. Et il prend l'exemple, par exemple, de la respiration. Il y a quand même des choses, si vous voulez, qui nous appartiennent en propre. Et Winnicott est un psychanalyste, penseur aussi, à certains égards artiste, poète, qui nous engage à aller justement vers ce soi. Et ce soi, c'est ce qu'il appelle cette capacité à créer, c'est-à-dire à pouvoir, comme on le disait au départ, être dans quelque chose de vivant, et on peut le dire de manière négative, c'est-à-dire ni être dans une injonction à s'adapter à l'environnement, mais en même temps on le fait tout le temps, comment faire autrement. Mais, nous dit Winnicott, ne pas non plus s'enfermer sur soi dans ce qu'il appelle une sorte de fantasme qui est à l'opposé de ce que lui appelle la rêverie, et qu'il relie justement au jeu. C'est une capacité à la fois à être là, sans être là. C'est une capacité à se donner, oui, à des rêveries, mais des rêveries qu'on peut partager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Winnicott fait un lien, même s'il ne le développe pas finalement beaucoup, un lien entre l'expérience du jeu et la culture. Voilà, hein. Donc il y a aussi toute une dimension, je dirais, trans-individuelle dans son approche du jeu.
On va écouter un dernier texte, Anne Boissière. Cette fois-ci, il n'est pas extrait de Jeu et réalité, mais de Conversation ordinaire. Et c'est un texte extrait de Vivre créativement.
Quelle que soit la définition à laquelle on parviendra, elle devra de toute façon inclure l'idée que la vie vaut la peine ou non d'être vécue selon que la créativité fait ou ne fait pas partie de l'expérience vécue de l'individu. Pour être créateur, l'individu doit exister et sentir qu'il existe. Ce n'est pas un sentiment conscient, c'est simplement une base à partir de laquelle il agit. La créativité, c'est donc le faire qui dérive de l'être. Elle montre que celui qui est, est vivant. L'impulsion peut être au repos, mais si l'on emploie le mot « faire », c'est qu'il y a déjà créativité. On pourrait démontrer que chez certaines personnes, à certains moments, les activités indiquant qu'elles sont vivantes sont simplement des réactions à un stimulus. Une vie entière peut être construite sur ce modèle. Supprimer les stimuli et l'individu n'a aucune vie. Dans ce cas extrême, cependant, le mot « être » ne convient pas. Pour pouvoir être et avoir le sentiment que l'on est, il faut que le « faire par impulsion » l'emporte sur le « faire par réaction ». Tout cela ne dépend pas simplement de la volonté, de l'aménagement ou du réaménagement de la vie. Les modèles de base sont inscrits dans le processus de croissance affective, et c'est presque dès le début que les facteurs les plus déterminants jouent un rôle. La créativité, c'est donc conserver tout au long de la vie une chose qui, à proprement parler, fait partie de l'expérience de la première enfance, la capacité de créer le monde.
On entend dans ce texte, Anne Boissière, l'importance de l'être, ce qui est dans la continuité de ce que vous disiez sur le soi, c'est-à-dire le sentiment non seulement d'être vivant, mais le sentiment aussi d'être et d'être quelqu'un. C'est la distinction entre faire par impulsion et faire par réaction. Est-ce à cette condition, Anne Boissière, qu'on peut seulement être dans quelque chose de créatif ? C'est-à-dire que c'est en créant qu'on se sent soi-même, que l'on est, et inversement, c'est en étant qu'on peut être créatif.
Oui, alors déjà, donc redire, on l'a déjà dit, mais c'est important de ne pas l'oublier, c'est que c'est en jouant qu'on est créatif. Donc, vous voyez, on ne peut pas être créatif indépendamment de cette expérience. Et cette expérience, elle ne se qualifie comme expérience de jeu, en tous les cas du point de vue de Winnicott, qu'à condition justement de ne pas être simplement dans ce que lui appelle le faire, hein, c'est-à-dire on suit des règles ou on est en interaction même, mais quelque chose d'une relation à soi et au monde surgit que lui appelle l'être. Hein, et il parle effectivement d'un faire par impulsion qui l'emporterait sur le faire par réaction. C'est-à-dire que il y a chez Winnicott une notion qui est très importante et qui est souvent oubliée dans beaucoup de théories philosophiques sur le jeu, c'est cette spontanéité qui fait que le jeu, on sait qu'on est dans le jeu quand quelque chose de cette spontanéité se manifeste. Et ce qui est en même temps important de dire, c'est que cette spontanéité n'est pas simplement disons de l'instinctif ou du biologique. On irait du côté de Jung, par exemple, on verrait que le jeu est du côté de l'instinct, d'une pulsion quasi biologique. Alors que chez Winnicott, et on revient à l'expérience de jeu, cette spontanéité, elle est liée à toute cette expérience de l'espace potentiel, elle est liée à toute cette histoire de la présence, de l'environnement, des soins. Et on voit bien que, évidemment, dans cette expérience-là, tout est toujours à refaire, tout est toujours mobile, tout est toujours labile. C'est-à-dire que, en même temps, rien n'est jamais acquis. Et ce qui est très important, c'est que le jeu, du point de vue de Winnicott, et pas du tout du côté de la maîtrise, comme chez Freud.
Voilà, c'est ni la volonté, comme il le dit, ni l'instinct.
C'est très important, ça. C'est très important, parce que il y a beaucoup de théories du jeu qui, en fait, révèlent une sorte de besoin de maîtrise. Hein. Mais, à certains égards, chez Freud lui-même. Mais alors que chez Winnicott, il y a cette espèce de fragilité, de précarité, comme on le disait au début du jeu, qui fait que, en certains égards, on s'expose au jeu. Hein. On est dans le jeu, mais on s'expose à lui. Et voilà. Donc, il y a toujours un risque aussi dans le jeu.
Mais pour finir, juste en quelques secondes, Anne Moissière, est-ce que vous pouvez nous parler, on a parlé du jeu de la spatule, mais il y a le Squiggle Game. Voilà un type de jeu où on s'expose. C'est
oui,
quoi ?
Oui, alors, d'une part, dire qu'on parle souvent du jeu du Squiggle Game pour Winnicott, mais en fait, il faut dire que Winnicott l'utilisait surtout comme un moyen de communication ou de contact avec ses patients. C'est-à-dire qu'il disait que si la cure se prolongeait, il fallait quand même prendre autre chose que le Squiggle Game. Et voilà ce qu'il dit dans le jeu du Squiggle. Je fais un tracé libre et je demande à l'enfant que j'examine d'en faire quelque chose. Puis, à son tour, l'enfant fait un Squiggle et c'est à moi d'en faire quelque chose. Alors, parfois, on traduit Squiggle Game par gribouillis, mais en fait, Squiggle, en anglais, ça veut aussi dire signature ou trait. Et en fait, il y a quelque chose dans le Squiggle Game qui relève d'une expérience, je dirais, de l'expressivité, hein, du mouvement expressif. Et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un premier contact. Et Winnicott dit que lorsque ce contact réussit, c'est une expérience qui en tous les cas, pour le patient, a quelque chose de sacré.
Pour aimer la vie, pour être aimé d'elle, il faut oublier tous les grands sujets. Redevenir petit, c'est la bonne échelle. Et puis se pencher sur une caisse de jouets. Les modèles réduits des plus chics voitures vous font désirer ce qu'il y a de plus beau. Mais toutes celles ici, sans pneus, sans peinture, les font ressembler à votre vieux taco. Les jeux à construire en bois, en plastique, enlèvent le ciment à vos illusions, à tous vos désirs, par trop mirifiques, qui étaient de gagner une si petite maison. Voyez les soldats généraux en tête, ça n'arrive qu'ici, vous le savez bien. S'il y a des dégâts, s'il manque des têtes, c'est à cause de lui, c'est un chef indien. Ça vous fait penser à la toute dernière où les bons crétins s'appelaient comme nous. Alors vous rangez ces dommages de guerre. Le fort en est plein, c'est gentil comme tout.
Merci Anne Boissière.
Merci Géraldine Moussin-Savoie.
De vous, on peut lire L'art et le vivant du jeu aux presses universitaires de Liège, Le mouvement à l'œuvre entre jeu et art aux éditions Mimesis et votre dernier essai Voix du corps philosophé autrement paru aux éditions Hermann. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le fil philo par Laurence De Villers.
Comment rester libre alors que tout le monde cherche à vous contraindre? Voici la solution imaginée par une philosophe injustement méconnue, Gabrielle Suchon. Vous rêvez d'indépendance. Vous vous dites que tout engagement dans une institution, une entreprise, voire dans une relation, vous fait encourir le risque d'être contraint, pire, assujetti. Vous risquez d'y perdre votre liberté. Et vous avez raison. D'une certaine façon, toute soumission à un pouvoir, celui d'un chef, d'un mari, d'un groupe, de réseaux sociaux aussi, comporte le risque d'un asservissement. Vous n'êtes plus vous-même. Vous appartenez en quelque sorte à celui que vous servez, adulez, suivez. Si vous êtes ainsi sensible à la préservation de votre liberté, il existe une philosophe qui peut devenir votre porte-parole. Il s'agit de Gabrielle Suchon, une philosophe encore injustement méconnue du temps de Louis XIV. Elle s'échappe du couvent, refuse de se marier et forge, pour justifier ses refus, les notions de vie sans engagement et de célibat volontaire. Le non-engagement qu'elle prône ne veut pas dire ne pas s'impliquer. Il signifie ne pas dépendre d'un autre. Or, et c'est surtout valable pour les femmes, dans une société d'inégalité où le pouvoir est souvent abus de pouvoir, être lié veut dire être asservi. Gabrielle Suchon, dans son ouvrage intitulé « Du célibat volontaire », veut vous mettre en garde contre cette servitude imposée. Tout engagement envers l'autorité d'un autre est confiscation de soi, mise en gage de sa propre vie. Pour une femme, c'est dépendre d'un mari, d'un père, d'un frère, de la religion, de conventions sociales. Ni mariage, ni soumission. Tel est l'état de neutralité, comme l'appelle Gabrielle Suchon, auquel on est en droit d'aspirer pour sauvegarder sa liberté. Pour la philosophe, c'est une manière de changer le monde en ne vivant pas comme tout le monde. C'est, dit-elle, un consentement de la volonté qui substitue le choix à la contrainte. Les neutralistes, comme elle les appelle, n'ont pour maître qu'eux-mêmes, libres de cœur et de corps. C'est montrer dans la société qu'il est possible de vivre autrement. Cet état de célibat volontaire, choisi, est une utopie réalisée, où la soumission des uns aux autres, des femmes aux hommes, et de tous à leur passion dévorante, dont la plus féroce, dit Gabrielle Suchon, est celle de commander, où cet état de soumission permanente est banni. Le célibat est donc avant tout le refus d'une vie aliénée, où l'on se trouve dépendant du pouvoir, des décisions et des choix d'un autre. Mais la philosophie de Gabrielle Suchon ne s'intéresse pas qu'au sort réservé aux femmes. Elle est une manière de repenser le pouvoir, l'égalité, la justice et la liberté. Cette philosophie concerne la société tout entière. La critique de la domination masculine est l'occasion de mettre au jour des procédés politiques et sociaux de culpabilisation et d'injustice, d'humiliation et d'assujettissement, qui certes touchent prioritairement les femmes, mais concernent aussi tout être humain. Ce que montre Gabrielle Suchon, c'est que pour penser autrement, il faut d'abord vivre autrement. Il se pourrait donc que de nos jours encore, cette philosophe du temps de Versailles et de la monarchie est quelque chose d'essentiel à nous transmettre à nous, citoyens et citoyennes, d'une démocratie du troisième millénaire.
Merci Laurence. Et un grand merci à toute l'équipe Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Axel Dubois, Nassim El-Kabli et Victoire Melet, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Raphaël Rousseau. Pour retrouver toutes les émissions avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.